Le livre d'Esther, chapitre 7.
Et le roi et Aman vinrent pour boire avec la reine Esther. Et le roi dit à Esther, le second jour aussi, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée. Et quelle est ta requête, quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. Et la reine Esther répondit et dit, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, qu'à ma demande, il m'accorde ma vie et mon peuple à ma requête. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits et tués et pour périr. Or, si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, j'aurais gardé le silence, bien que l'ennemi ne pût compenser le dommage fait au roi. Et le roi Assuérus parla et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui que son cœur a rempli de la pensée de faire ainsi ?» Et Esther dit, « L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Aman. » Et Aman fut terrifié devant le roi et la reine. Verset 8 à la fin, « Et le roi dit, « Veut-il encore faire violence à la reine chez moi dans la maison ?» La parole sortit de la bouche du roi et on couvrit la face d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Voici le bois haut de 50 coudées qu'Aman avait préparé pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. » Et le roi dit, « Qu'on l'y pende. » Et on pendit Aman au bois qu'il avait dressé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Chapitre 8. Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardoché entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qui lui était. Et le roi ôta son anneau qu'il avait retiré à Aman et le donna à Mardoché. Et Esther établit Mardoché sur la maison d'Aman. Et Esther parla encore devant le roi et tomba à ses pieds et pleura et le supplia de mettre à néant le mal médité par Aman l'Agagite et le dessein qu'il avait formé contre les Juifs. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Et Esther se leva et se tint devant le roi. Et elle dit, « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé faveur devant lui, et que le roi estime la chose avantageuse, et que moi je sois agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres ourdies par Aman. » Verset 6, « Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple ?» Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardoché le Juif, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Puis on envoie les lettres. Ces lettres portaient que le roi accordait aux Juifs dans chaque ville de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie et de détruire, tuer et faire périr toute force du peuple et de la province qui les opprimerait. Puis le verset 15. Et Mardoché sortit de devant le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, il y avait lumière et joie et allégresse et honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent Juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Donc, chapitre 9, au 12e mois, verset 2, les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, à la fin du verset 2, et personne ne tint devant eux, car la frayeur des Juifs tomba sur tout le peuple. Et tous les chefs des provinces et des satrapes, et les gouverneurs et ceux qui faisaient les affaires du roi, assistaient les Juifs, car la frayeur de Mardoché était tombée, car Mardoché était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardoché, allait toujours grandissant. Et les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Aussi les fils de Han. Et puis, dans le verset 12, nous voyons que Esther demande maintenant une seconde fois, verset 13, et Esther dit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit accordé encore demain aux Juifs qui sont à Suse de faire selon les dits d'aujourd'hui et qu'on pende au bois le dit fils d'Aman. Verset 16. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie et eurent du repos de leurs ennemis. Verset 17. Ils se reposèrent. Ils en firent un jour de festin et de joie. Verset 20. Et Mardochée écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs. Verset 21. Afin d'établir pour eux qu'ils célébreraient le 14e jour du mois d'Adar. Verset 22. Les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur douleur avait été changée en joie et leur deuil en un jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions l'un à l'autre, et où l'on fait des dons aux pauvres. Verset 23, et les Juifs acceptèrent de faire ce qu'ils avaient commencé, et ce que Mardochée leur avait écrit. Puis, le chapitre 10, et le roi Assuérus imposa un tribut sur le pays et sur les îles de la mer. Et tous les actes de la puissance et de sa force, et la déclaration de la grandeur de Mardochée, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mardochée le Juif fut le second après le roi Assuérus. Il fut grand parmi les Juifs, et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race. Jusqu'ici. C'est donc une longue portion que nous avons ce soir. Puis nous devons donc résumer quelques points, parce qu'on ne peut pas parler de tous les détails, mais j'aimerais quand même demander votre attention de quelques détails. On a vu dans ce livre d'Esther que le roi des Perses nous parle de Dieu. Dieu lui avait confié une certaine autorité, et puis c'est pour cela qu'il représente Dieu vraiment, comme celui qui exerce l'autorité que Dieu lui avait donnée. Comme homme, il a manqué grandement, c'est clair, mais quand même, il représente Dieu, aussi dans tout ce livre. Nous voyons dans ce livre comment Dieu veut avoir une relation avec son peuple. Dans ce temps-là, nous savons que les Juifs fidèles étaient rentrés à Jérusalem. Par contre, ici, nous trouvons des Juifs qui n'ont pas de relation officielle avec Dieu. C'est pour ça que nous ne trouvons pas de prière dans ce livre. Nous ne trouvons pas de prophète. Nous ne trouvons pas de service officiel pour adorer Dieu. Tout cela manque à cause de ce fait qu'il n'y a pas de relation officielle avec Dieu. Mais nous voyons quand même que c'est le désir de Dieu d'avoir une relation avec son peuple. Et dans ce livre-là, nous voyons comment Dieu va établir dans le futur une relation avec le reste fidèle présenté par Esther. Et nous avons vu dans les réunions précédentes comment Esther était formée à l'école de Dieu pour entrer dans cette relation, pour être consciente aussi de cette relation avec Dieu à un moment donné. Et puis, nous avons vu également que Mardochée, lui, est une image de notre Seigneur Jésus. Dans ses souffrances, dans sa fidélité ici-bas, dans sa marche, mais aussi dans sa gloire. Nous avons vu que Vasti, la reine du roi, était infidèle et qu'elle a été mise de côté. Et cela nous parle de la chrétienté, comme nous avons vu dans le premier chapitre déjà, qui a manqué grandement et Dieu l'a mis de côté. Nous vivons dans un temps de transition maintenant, où Dieu a encore ce témoignage de l'Église ici-bas. Mais l'Église a manqué et Dieu va mettre de côté ce témoignage. Et Dieu va introduire un autre témoignage, comme nous avons vu dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, nous avons vu comment Dieu a permis à Aman d'attaquer son peuple. Et Aman représente Satan en général, mais aussi les instruments de Satan, comme Hérode dans les jours du Seigneur Jésus, comme l'Antichrist dans le futur. Et aussi, on peut penser à d'autres personnages, même dans l'histoire, comme Hitler et d'autres personnages qui représentent le pouvoir de l'ennemi. Mais Aman présente surtout Satan, et comme on va voir aussi dans le futur, l'Antichrist. Dans le chapitre 4, nous avons vu comment le reste fidèle des Juifs, dans le futur, doit apprendre que leurs souffrances sont liées aux souffrances de Christ. Ils doivent entrer dans leur esprit, dans les souffrances de Christ. Et Christ, c'est l'esprit de Christ qui s'est identifié déjà dans les jours où il était ici-bas, avec les souffrances qu'eux traverseront plus tard. Donc le chapitre 4 est important pour le reste fidèle, pour être formé, pour réaliser que même dans une relation avec Dieu, ils doivent quand même entrer dans ces souffrances. Mais Dieu va aider. Et dans le chapitre 5, nous avons vu comment Esther s'est approchée de Dieu. Elle a utilisé cette liberté pour s'approcher du roi. Et puis le roi est venu avec Aman pour avoir ce festin d'Esther. En même temps, nous avons vu comment Dieu est en contrôle de tout. Dieu a permis que Esther attende encore pour demander sa requête. Et puis dans cette même nuit où Aman voulait donc préparer la mort de Mardoché, on voit que tout tourne par la providence de Dieu. Et Assuérus va honorer Mardoché. Maintenant, on arrive au point où on est resté la dernière fois. On voit donc que à la fin du chapitre 5, ce bois nous parle de la mort du Seigneur Jésus. Mardoché, il est vrai, n'était pas pendu littéralement à ce bois. Mais quand même, la pensée de sa mort est là. Nous avons la même pensée avec Isaac. Isaac était sacrifié dans Genèse 22, mais il n'est pas mort littéralement. Mais Hébreux 11 nous explique que Abraham l'a reçu comme ressuscité d'entre les morts par la foi. Une même chose on voit ici. Il y a d'autres exemples aussi dans les Écritures qui nous montrent que même si la mort n'a pas eu lieu littéralement, la pensée de la mort du Seigneur est là. Seulement, le Seigneur, il est mort littéralement à la croix, au bois. Il y a peut-être d'autres exemples dans les Écritures qui donnent la même pensée, que la pensée de la mort était là sans que la mort intervienne vraiment. Mais dans le cas du Seigneur, la mort était là. Et puis, immédiatement après cette pensée-là, dans le chapitre 6, nous voyons comment le roi va honorer Mardoché. Et d'une telle façon, nous avons pensé au fait que Dieu a glorifié le Seigneur Jésus aussitôt. On peut le lire dans Jean 13, verset 31, que Dieu, donc le Seigneur Jésus a honoré Dieu, il a glorifié Dieu, maintenant Dieu va l'honorer. On a vu dans le chapitre 2 déjà, dans le livre d'Esther, comment Mardoché a pris soin des intérêts du roi. Il a protégé le roi d'une certaine façon. Et puis, il a maintenu les droits du roi. Et maintenant, le roi va l'honorer. Et ce qu'on a vu maintenant, à la fin du chapitre 6, Dieu donne un témoignage du fait que l'homme en qui il a trouvé son bon plaisir est l'homme, ses délices. C'est l'homme qu'il honore, c'est l'homme qu'il glorifie. Et Dieu utilise l'ennemi pour rendre ce témoignage. Nous avons pensé à Paul, l'apôtre Paul, qui était un ennemi de Dieu. Mais Dieu l'a utilisé pour rendre ce témoignage d'un Christ glorifié. Nous avons vu que dans le cas de Paul, lui était changé vraiment intérieurement. Il y avait un changement de cœur. Dans le cas de Aman, il était un ennemi de Dieu. Et là, on ne voit pas le changement de cœur. Mais le fait, c'est que l'ennemi a rendu ce témoignage de la gloire de Christ, de la gloire de Mardoché. Donc, c'était le point où on est arrivé la dernière fois. Maintenant, quel changement pour le peuple? Aucun changement. On voit dans le chapitre 7 que le fait que le roi a honoré Mardoché ne change pas la situation des Juifs. Et Dieu veut donc, et c'est clair dans le chapitre 7, que Esther doit faire sa demande. Et maintenant, on arrive donc au chapitre 7, le verset 2. Le roi demande maintenant à Esther, quelle est ta demande? Quel principe est-ce qu'on trouve ici? Dieu veut donner la délivrance sur la base de nos requêtes. C'est ça qu'on trouve dans le chapitre 7. Dieu a honoré donc son homme, il a honoré Mardoché, l'homme en qui il avait trouvé son bon plaisir, mais ça ne veut pas dire qu'il va délivrer le peuple comme tel. Le peuple sera délivré par Dieu, mais c'est sur la base de leurs requêtes. On pourrait lire les psaumes où on trouve tant de requêtes, tant de supplications pour être délivré de la grande tribulation. Donc le premier fait qu'on trouve ici, c'est la nécessité des prières. Il est clair que c'est pas mentionné comme tel, les prières, parce qu'on a vu pourquoi dans le livre d'Esther. Mais le principe est là, de faire des demandes, faire les requêtes au roi qui représente Dieu. Et il va donc donner la délivrance sur la base des supplications, de l'intercession de ceux qui sont près de lui, comme Esther l'était. Et maintenant, on a vu les dernières fois aussi que c'est le sang, donc cette exégèse en rapport avec le reste fidèle, donne en même temps aussi des applications pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cette situation? D'un côté, le Seigneur dans la gloire, chapitre 6. Mais nous sommes encore sur la terre. Qu'est-ce que nous devons faire, donc? Nous avons besoin de présenter nos requêtes devant Dieu. 1 Timothée 2, par exemple. Là, nous voyons les demandes, les requêtes. On peut penser à Moïse, dans Exode 33. Moïse était vraiment dans une situation où il pouvait intercéder pour le peuple. Tout le peuple était associé à l'idolâtrie. Mais Moïse s'est séparé de cette idolâtrie. Exode 32, 33. Et c'est Moïse qui peut prier. Pour nous aussi, Dieu nous a placés dans une position, séparation, séparés du mal. Et Dieu veut que nous prions, que nous soyons un peuple qui prie. Dans Éphésiens 6, nous voyons comment l'apôtre Paul parle de prières. C'est touchant de voir là comment il explique à la fin d'Éphésiens 6 que nous devrions être revêtus de toute l'armure de Dieu. Et comment ce soldat est vu? Il est vu priant. Et c'est vraiment un encouragement pour nous pour prier. Quelle était la caractéristique de Philadelphie dans le siècle passé? Et quelle devrait être notre caractéristique? La prière. C'est sur la base de la prière que le Seigneur s'est identifié avec ce reste fidèle dans le siècle passé. Le Seigneur s'est identifié avec eux parce que c'était un peuple dépendant de Dieu. Et on voit ici la même dépendance dans Esther. Et c'est donc pour nous une leçon. Notre force se trouve dans la prière. Et c'est là où on manque. Et c'est là où l'ennemi nous attaque. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous prions. Parce qu'il sait très bien le moment où on va plier les genoux. Et surtout, le moment où on va le faire ensemble, il y a une force particulière dans la prière. Et c'est là où nous manquons souvent. Une force particulière qui est reconnue même par l'ennemi. Mais surtout, une force particulière dans la prière qui est reconnue par Dieu. Dieu attend que nous prions. Et maintenant, dans le verset 4, elle explique donc sa situation. C'est aussi une nécessité. On prie souvent très général. On prie pour les missionnaires, on prie pour les enfants. Mais elle indique ici exactement les besoins. Et c'est donc une leçon pour nous aussi. Indiquer la situation, indiquer nos dangers, indiquer aussi nos faiblesses, parce que nous avons beaucoup de faiblesses, mais en parler en détail devant Dieu. C'est ça qu'il veut. Et puis, elle indique exactement la situation. Maintenant, dans le verset 6, nous voyons donc qu'elle indique exactement l'ennemi. Souvent, on n'a aucune idée de l'ennemi. Nos enfants sont à l'école, nous ne connaissons pas leurs dangers. À l'ouvrage même, on ne réalise pas les dangers. Il y a tant de dangers, mais on ne les réalise pas. Mais Esther réalisait exactement sa situation et elle pouvait même accuser l'ennemi. C'est ça que le Seigneur veut, que nous réalisions la situation désespérée où nous sommes, afin que nous puissions mentionner ça au Seigneur, afin qu'il puisse intervenir pour nous délivrer. Ici, verset 6, l'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. On trouve cette expression souvent dans ses écrits, mais aussi dans les psaumes. Il était donc un adversaire, comme nous avons vu déjà dans le chapitre 3, un ennemi, mais aussi un oppresseur. C'est un autre nom ou une autre indication pour Haman. Et cette expression, ce méchant Haman, la valeur numérique dans l'hébreu est 666. C'est donc de nouveau, c'est un petit détail, mais qui nous montre que Haman présente vraiment l'Antichrist, comme on le trouve dans Apocalypse 13. Maintenant, on voit que Haman a été exposé, et puis la colère du roi est certaine. Pour Haman, c'est maintenant trop tard. Il trouve une solution, il trouve du repos, pour ainsi dire, parce qu'il tombe sur le divan sur lequel était Esther. Pour Esther, pour elle, le moment du repos était venu. Elle pouvait se reposer sur son divan. Elle avait fait ce qu'elle devrait faire. Au chapitre 4, nous avons vu comment elle était hésitante. Mais par les encouragements de Mardoché, elle a fait ce qu'elle a dû faire, et maintenant, Tout est entre les mains du roi. Maintenant, pour elle, le repos est venu. Elle peut se reposer sur son divan, pour ainsi dire. Mais pour Aman, c'était trop tard. Il aurait dû reconnaître déjà plus tôt qu'il était mauvais. Mais c'est maintenant trop tard. Et c'est aussi donc une raison pour laquelle on doit présenter l'Évangile. Parce qu'encore aujourd'hui, les hommes peuvent se repentir, peuvent se convertir avant que ce soit trop tard. Il y a un autre détail remarqué ici, au verset 8 à la fin, nous voyons la parole sortie de la bouche du roi et on couvrit la face d'Aman. Ici donc, les serviteurs du roi agissent et puis on voit que c'est les ténèbres pour Aman. Un chapitre plus loin, nous avons vu que pour les Juifs, la lumière est venue. Mais pour Aman, les ténèbres sont venues. Les ténèbres éternelles. Quelle pensée? Il était un serviteur des ténèbres, un serviteur de Satan, mais maintenant c'était définitivement trop tard. Mais en même temps, c'est le moment où nous voyons que l'eunuque Harbona, l'un des eunuques, montre sa position. Il s'était tu, toujours, mais maintenant, c'est le moment où il confesse, pour ainsi dire, qu'il reconnaît Mardoché. Verset 9 nous montre ça clairement. Ce verset montre un changement d'attitude dans Harbona. Et nous pensons à Nicodème, dans l'évangile de Jean, comment il a changé d'attitude envers le Seigneur Jésus, graduellement. Et le moment de la mort du Seigneur, là, il a montré publiquement sa position devant Ponce Pilate. Et c'est pour nous aussi un encouragement de montrer notre relation au Seigneur, de ne pas nous taire. Un autre détail dans verset 9, c'est que maintenant il y a un changement définitif. Ceux qui ont persécuté le peuple sont persécutés eux-mêmes. Ceux qui veulent causer la mort du peuple de Dieu sont mis à mort eux-mêmes, comme Aman ici et plus tard d'autres Juifs. Donc c'est maintenant un point où tout tourne. Et c'est pour nous très important de comprendre ça. Nous vivons aujourd'hui encore dans le temps où l'ennemi règne. Sous la permission de Dieu, c'est clair, où le peuple de Dieu est persécuté. Mais, comme on le voit dans 2 Thessaloniciens 1, par exemple, il y aura un changement à un moment donné, où ceux qui ont persécuté les chrétiens, eux, seront persécutés par la colère de Dieu. C'est ça qu'on trouve ici, ce changement. Aussi, on peut penser à cette histoire dans Daniel 6, ceux qui voulaient tuer Daniel, eux, sont tombés dans leur propre piège, dans la fosse des lions. Donc c'est la même pensée qu'on trouve ici. Que Dieu mette sur la tête de ceux qui ont persécuté son peuple, il mette sur leur tête les conséquences, leur propre piège, pour ainsi dire. Aussi, dans les prophéties, on trouve clairement ce qui va arriver, comme dans le verset 10, « Et on pendit Aman au bois » qu'il avait dressé pour Mardoché. On a beaucoup d'indications dans les prophéties et même dans d'autres passages comme dans Nombre. Je vais juste lire ce verset parce que dans Nombre 24, nous lisons « Il vit Amalek et proféra son discours sentencieux. Il dit « Amalek était la première des nations et sa fin sera la destruction. » C'est clair que Amalek était le petit-fils d'Édon. Et de Édon, on lit dans le livre d'Abdias aussi que pour lui, il n'y a pas de réconciliation, pas de paix. D'autres peuples, même des ennemis du peuple de Dieu, entreront dans le millénium, dans le règne millénaire du Seigneur Jésus. Mais Édom et aussi Amalek, pas. Amalek, on a vu dans le chapitre 3 déjà, était toujours un ennemi du peuple de Dieu. On voit ici leur fin. Maintenant, on arrive au chapitre 8. Et puis, les conséquences de ce changement. On a vu donc que Dieu est intervenu et maintenant, le règne et l'autorité est donnée à Mardoché. Quel changement! C'est vraiment merveilleux de voir ce changement. Le premier verset nous parle du fait que le roi donna à la reine Esther la maison d'Aman. Donc, c'est important de voir que ce n'est pas seulement à Mardoché qu'il a confié cette autorité, mais que le roi a donné à la reine Esther la maison d'Aman. Et puis, ça montre donc que le reste fidèle futur, parmi les Juifs, vont jouer un rôle très important. Puis, on en parlera encore dans ce chapitre-là. Mais pour l'appliquer aussi pour nous, parce que nous aussi, l'Église, va régner avec le Seigneur. Et le Seigneur veut déjà se servir maintenant de vous et moi pour être un peuple préparé pour lui, afin qu'il puisse nous utiliser pour lui-même. Mais c'est ça qu'on va voir dans chapitre 8. Mardochée entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Maintenant, dans le verset 2. Et le roi ôta son anneau qu'il avait retiré à Haman, et le donna à Mardochée. Ici, on voit donc que le roi donne l'autorité à Mardochée. Mais aussi, on pourrait dire, ça parle d'une certaine faveur, comme le fils prodigue, rentré chez son père, il a reçu aussi un anneau. Ça parle de la faveur. Nous avons pensé à ça aussi ce soir. Cette position favorable dans laquelle nous sommes placés. Et il donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Maintenant, on arrive à ce point important. Quel est le rôle d'Esther maintenant? On aimerait penser que Mardochée, qui parle clairement du Seigneur, va faire tout. Il va régner, il va soumettre les ennemis à ses pieds. Quel rôle Esther a dans tout cela? Mais voilà, on lit ici dans le verset 2, et Esther établit Mardochée. Ça veut dire, Dieu veut voir ici que Esther soit le moyen par lequel Mardochée va exercer ses droits. Un verset qui m'a aidé beaucoup à comprendre cette pensée-là, on trouve dans le psaume 110, le verset 3, où le Seigneur parle d'un peuple de franche volonté. Et on voit ce principe-là aussi dans d'autres passages, mais peut-être on pourrait juste lire ce verset, psaume 110, verset 3. « Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, en sainte magnificence. » Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. On voit ici donc cette pensée-là, un peuple préparé, tout prêt, de franche volonté. C'est pas seulement forcé, c'est pas parce qu'il faut qu'il soit prêt, non. C'est un peuple de franche volonté. Et c'est ça qu'on trouve dans Esther. Elle était prête pour aider Mardochée. Et d'une telle façon, on le trouve aussi dans Cantique des Cantiques, où l'époux dit à un moment donné, dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 12, « Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. » C'est ça qui est tellement agréable devant Dieu. On trouve ce peuple déjà dans le désert. Après la délivrance de l'Égypte, on trouve que le peuple était prêt pour construire le tabernacle. C'était un peuple de franche volonté, un peuple avec un cœur libéral. Exode 35 nous donne beaucoup de détails comment ils ont construit ce tabernacle. Il était prêt. Maintenant, on voit la même pensée ici. Pour que le Seigneur exerce son pouvoir ici-bas, il veut se servir d'un peuple de franche volonté. On le voit dans les prophéties clairement que le Seigneur va se servir des Juifs pour soumettre les peuples autour d'Israël. Donc, cette pensée, on trouve ici. Que Esther est ce peuple, représente ce peuple de franche volonté pour que Mardochée puisse imposer son règne. Un autre verset qui souligne cette pensée, on trouve dans Romains 11 que le libérateur viendra de Sion, pas du ciel, il viendra du ciel, c'est clair. Mais dans les prophéties, on trouve qu'il viendra de Sion, ça veut dire... Il est, pour ainsi dire, le fruit des exercices du peuple. Il est le fruit, mais c'est la réponse de la part de Dieu, c'est clair. C'est Dieu qui intervient. Mais c'est en même temps le fruit de l'exercice du peuple. Comme Samuel était le fruit de l'exercice de Anne, sa mère. D'une telle façon, Mardochée et son règne, c'est le résultat de l'exercice d'Esther. Mais c'est l'œuvre de Dieu en même temps, c'est clair. Un autre verset, dans Nombre 24, Balaam dit déjà que une étoile montera de Jacob. Quelle pensée? Cette étoile ne vient pas du ciel, mais de Jacob. Ça veut dire un peuple de franche volonté, un peuple prêt, prépare la venue du Seigneur. Et maintenant pour nous, quelle leçon pour nous? Nous pouvons donc préparer par notre attitude la venue du Seigneur, hâter la venue du Seigneur. Nous pouvons aussi, littéralement, dans notre comportement, aider que l'autorité du Seigneur soit reconnue là où nous nous trouvons. on le voit dans la vie de l'apôtre Paul, comment il avait le désir que Christ soit magnifié dans son corps même. Notre corps nous est donné pour que Christ soit honoré dans nos corps, mais aussi comme rassemblement, que Christ soit honoré au milieu de nous. Mais elle doit apprendre encore quelque chose quand même. C'est ça qu'on trouve dans le chapitre 8. Elle doit supplier, comme on le trouve ici. Pourquoi? Elle doit apprendre encore que le résidu doit passer à travers la grande tribulation. C'est comme le roi explique dans le verset 8, « Prix qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. » C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Que la grande tribulation est quelque chose qui a été déterminé par Dieu. On l'a vu déjà dans le chapitre 3. Mais en même temps, Dieu donnera la grâce nécessaire pour le peuple, afin que le peuple puisse traverser à travers tout ça. Mais Esther est ici encore à l'école de Dieu, verset 3, où elle doit apprendre que c'est nécessaire. Verset 4 aussi. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or, et Esther se leva et se tint devant le roi. C'est très beau de voir cette position qu'elle a maintenant. Sans hésitation, elle peut se tenir devant le roi. Mais elle doit encore apprendre quelque chose. Et c'est ça qu'on voit donc dans ces versets 5 et suivants. D'un côté, l'écrit du roi ne peut pas être révoqué. Elle demande que ce soit révoqué. Mais c'est impossible. Et ce principe qu'on trouve ici donc, que Dieu a déterminé dans ses voies la grande tribulation, mais en même temps Dieu donne la délivrance. Donc c'est quelque chose que le peuple doit passer à travers. Dieu ne peut pas changer ça. Dans les voies de Dieu, c'est quelque chose qui est irrévocable. Mais en même temps, on voit que Dieu donne la délivrance. Et c'est pour nous aussi important. Il y a des circonstances où on doit passer à travers. Mais Dieu donne la grâce nécessaire, comme Paul l'a appris. Dans la faiblesse, il a appris la grâce nécessaire. Et ce sont donc des choses que Dieu nous enseigne à son école. Mais la délivrance est sûre, pour nous aussi, la délivrance est sûre. Mais quelle délivrance ici, ce sera pour le peuple Israël, comme on a vu aussi. Dans les psaumes, on trouve clairement que d'un côté, ils doivent passer à travers ça, mais en même temps, Dieu donnera la délivrance. Un autre principe qu'on trouve ici, qui est très important, je pense, verset 11, il faut que le peuple s'assemble. Verset 11, ils ont le droit donc de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie. Et on voit dans le chapitre 9 comment ils ont réalisé ce principe-là. Pour nous aussi, le Seigneur veut que nous nous assemblions, que nous nous réunions. Comme nous avons vu déjà en rapport avec la prière, quelle importance Dieu reconnaît la prière du rassemblement. Les prières individuelles sont très importantes, mais dans l'union et la force, c'est un principe de l'homme. Mais Dieu reconnaît ce principe-là. L'assemblée comme telle, ensemble, est plus puissante que les membres individuels. Et pour nous, nous connaissons ce principe-là, que nous sommes réunis sur la base de la séparation du mal. Ce peuple aussi se réunit séparé du mal. Ça, c'est très important. Dieu reconnaît les prières de ceux qui se sont retirés du mal. Dieu ne peut pas exaucer les prières de ceux qui continuent dans le mal. C'est impossible. On le lit souvent dans l'Ancien Testament. Mais ceux qui se sont retirés du mal, il peut exaucer leurs prières. Ils doivent se réunir, s'assembler, comme on le voit ici. À la fin du chapitre, on trouve vraiment une présentation touchante de la grandeur de Mardochée. Nous avons vu déjà que dans l'image du chapitre 6, Dieu l'a glorifié. Mais ici, on voit donc le moment où cette gloire est vue publiquement. Le roi le sait, Esther le sait maintenant, et le reste fidèle, futur, va reconnaître le Seigneur comme son Messie, psaume 45 par exemple, dans la gloire, avant qu'il apparaisse. Mais ici, le moment est venu où il apparaît. Verset 15, Mardochée sortit. Il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous parlent de cette sortie. Pour nous, le Seigneur Jésus est dans la gloire. Hébreux 2, verset 9, couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons. Hébreux 9 aussi, il est apparu devant Dieu, il prie pour nous là. Mais le moment viendra où il reviendra, où il sortira, il sortit de devant le roi. Ésaïe 53 nous parle de cette sortie. Lévitique 9 nous donne une image. Aaron et Moïse sortaient. C'est le même moment dans l'image. Apocalypse 1, verset 7. Ils verront celui qui l'ont percé. C'est le moment où il sortira. Et comment? Avec un vêtement royal bleu. C'est merveilleux. Il viendra du ciel. Le bleu parle de la gloire céleste du Seigneur Jésus. Mais aussi blanc. Ça parle de sa pureté, sa justice. Et une grande couronne d'or. Sa dignité royale. C'est merveilleux. Ces versets qui nous parlent de la gloire du Seigneur. Et vous voyez dans les psaumes, nous voyons que le reste fidèle vont attendre ce retour de leur Messie. Ils vont donc apprendre que leur Messie sera dans la gloire, couronné de gloire et d'honneur. Ils vont apprendre ça, et puis ils vont l'attendre, et au moment donné, ils vont le voir. Puis dans le psaume 21, nous voyons quelques détails là-dessus. Par exemple, dans le verset 3, « Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. » Ils reconnaissent donc leur Messie comme celui qui a été couronné. Verset 5, sa gloire est grande dans ta délivrance. Tu l'as revêtu de majesté, de magnificence. Et puis ce même psaume nous parle aussi de ce qui va arriver aux ennemis. Ce psaume nous parle dans le verset 10, tu feras périr leurs fruits de dessus la terre et leurs semences d'entre les fils des hommes. Donc l'ennemi comme Haman et sa semence, ses fils, tous ceux qui appartenaient à lui vont périr. Donc tout cela, on voit dans ce psaume 21. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de psaumes qui nous parlent d'un côté de la gloire du Messie, d'un autre côté de ce jugement sur les ennemis. Continuons encore un peu dans Esther 8, une grande couronne d'or, donc en rapport avec la gloire de Dieu. Il faut réaliser que le Messie, et pour nous le Seigneur Jésus, montre vraiment la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est vue en lui et par lui, montrée par lui, et un manteau de byssus et de pourpre. C'est comme Joseph qui a reçu ce manteau de byssus du Pharaon, et le pourpre, je pense, parle aussi de ses souffrances. C'est sur la base de ses souffrances que le Seigneur va recevoir ce manteau. Donc ce sont des détails, quelques détails merveilleux qui nous parlent de la grandeur, de la beauté du Mardoché, et donc de notre Seigneur Jésus. Et quel résultat pour les Juifs? Verset 16, pour les Juifs, il y avait lumière et joie. Mais ils sont encore avant le moment où ils passent vraiment à travers la grande tribulation. Il faut bien réaliser ça. Chapitre 8 est avant la grande tribulation. Mais chapitre 8 donne les conditions avec lesquelles ils peuvent passer à travers ça. Ils connaissent maintenant le Seigneur comme leur Messie. Ils réalisent sa beauté, sa gloire. Ils réalisent qu'ils doivent passer à travers tout ça, mais ils ont maintenant la joie. Quel contraste avec chapitre 3, où nous avons vu les détresses. C'est maintenant l'allégresse et la joie et la lumière. Ils doivent passer à travers tout ça, mais la lumière est là. Ils voient déjà la fin. Ils voient la délivrance. Et à cause de ça, il y a de l'allégresse et un festin. C'est pour nous la même chose. Nous avons encore un bout à faire, mais nous voyons la fin déjà. Et à cause de ça, nous pouvons être pleins de joie. L'apôtre Paul en prison, Philippiens, l'épître aux Philippiens, plein de joie. Il était dans la détresse, plein de joie. Et puis on voit aussi quel résultat tout cet écrit a sur les autres nations. Ils reconnaissent la frayeur des Juifs. La frayeur des Juifs tomba sur eux. Donc à un moment donné, ce sera littéralement le cas en rapport avec les Juifs. Et nous voyons aussi dans l'histoire de l'Église comment le Seigneur a aidé quelquefois pour donner ça. Et dans le chapitre 9, nous voyons donc la réalisation de ces choses. On voit aussi que la frayeur de Mardoché était tombée sur les nations. C'est la frayeur des Juifs, mais c'est à cause de Mardoché. Chapitre 9, verset 3 à la fin. J'ai oublié un point important, je me réalise, que Esther parle dans chapitre 8, verset 6, de mon peuple et des Maras. C'est important. Auparavant, Esther ne s'était pas identifiée avec les Juifs. Elle avait beaucoup de misère pour le faire. On l'a vu dans chapitre 5, 4 et 5. Maintenant, elle s'identifie entièrement avec son peuple. C'est important. C'était le peuple de Mardoché, on l'a vu quelquefois, le peuple de Mardoché, les Juifs, mais c'est aussi le peuple d'Esther. Résidu fidèle à Jérusalem, représenté par Esther ici, va reconnaître leur lien avec tout ce résidu qui sera persécuté même loin de Jérusalem. Ils vont reconnaître leur lien avec tout ce résidu. Donc, Je m'excuse pour cette parenthèse. Puis on continue maintenant avec le chapitre 9, où nous voyons maintenant comment ces choses étaient réalisées par les instructions de Mardochée. Et c'est ça que j'aimerais souligner. Le Seigneur Jésus, avant de régner comme le prince de paix, comme le vrai Salomon, il va régner comme David. David a eu beaucoup de guerres. David a soumis, a assujetti les ennemis à ses pieds. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que Mardochée va le faire par les Juifs même. D'une telle façon, le Seigneur Jésus, comme le vrai David, va soumettre les ennemis par les Juifs même. Comme dans Ésaïe 11, on voit, le verset 14, je pense, qu'ils vont attaquer les Philistins, d'autres nations ennemies, pour les assujettir au Seigneur. Donc, ce qu'on voit ici, que le Seigneur va se servir des Juifs même pour se soumettre les ennemis autour d'Israël dans le futur. Maintenant, encore un détail très beau en rapport avec Mardochée, le verset 4. « Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. » On a vu donc que Dieu l'a glorifié, on a vu que Esther, qui représente le résidu, va le reconnaître dans sa gloire, mais maintenant on voit que les nations vont reconnaître la grandeur de Mardochée. Il y a donc toujours un agrandissement de la grandeur, de la splendeur, de la magnificence de Mardochée. Verset 4, il était grand dans la maison du roi. Je pense à Moïse, il était grand devant les serviteurs du Pharaon. Josué était grand devant le peuple, mais aussi devant les nations. On trouve le même principe en rapport avec Isaac dans Genèse 26. Il est devenu grand, toujours plus grand. Mais c'est toujours, toutes ces personnes sont des images du Seigneur Jésus, comme Mardochée évidemment aussi, qui nous parle de la façon dans laquelle la grandeur du Seigneur Jésus augmentera de pas en pas, jusqu'à ce qu'il règne sur toute la terre, jusqu'à ce que cette grandeur soit reconnue partout. Mais c'est notre privilège de le reconnaître déjà, aujourd'hui. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme Mardochée allait toujours grandissant. C'est un verset merveilleux. Maintenant, le verset 5, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. C'est remarquable qu'on trouve ces deux côtés aussi dans les prophéties. Donc, d'un côté, la grandeur du Messie, d'un autre côté, que les ennemis sont frappés et soumis. Je donne juste un exemple. Dans le livre de Michée, chapitre 5, nous voyons, verset 4, « Et il se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre. » Michée 5, verset 4. Vous voyez la même pensée, la grandeur du Messie. Et puis dans le même chapitre, nous voyons comment les Juifs vont soumettre les ennemis. Dans le verset 5 jusqu'à 8 qui suivent, nous voyons comment ils vont assujettir les autres nations. Verset 8, par exemple, « Et le résidu de Jacob sera parmi les nations, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux de nu bétail, qui, s'il passe, foule et déchire, et il n'y a personne qui délivre. » Donc ici, nous voyons que le Seigneur va se servir du reste fidèle pour soumettre tous ses ennemis, toutes ses nations. Nous voyons aussi dans chapitre Esther 9, que les fils d'Aman étaient tués. Et on voit deux choses. Il était tué et il était pendu au bois le deuxième jour. C'était donc la conséquence, il était la semence d'Aman, comme la bête et les dix rois vont ensemble. Les dix rois dans l'Apocalypse seront jugés aussi. Les dix fils d'Aman appartenaient à Aman et son règne méchant. C'est la semence du serpent, vraiment. Et le Seigneur Jésus a dit déjà dans Jean 8 que ceux qui appartiennent à la semence de Satan vont périr. Un autre principe qu'on trouve ici, il faut réaliser que Aman était un Amalekite. Et nous voyons dans le passé, comme 1 Samuel 15, que Saül, le roi Saül, avait manqué à suivre les instructions de Dieu. Il avait pris du butin. Et nous voyons ici dans le verset 10, « Mais ils ne mirent pas la main sur le butin.
Ils reconnaissent donc les droits de Dieu. Ce n'était pas pour eux-mêmes, c'était pour Dieu.
Et le fait qu'il était pendu au bois, je pense, c'était aussi un spectacle public. C'était pour manifester publiquement leur sort. Et nous voyons, nous avons vu que le Seigneur a pris cette place à la croix pour nous. 1 Corinthiens 1, par exemple, parle du fait que Christ est crucifié. Quelle pensée ! L'homme le plus merveilleux, crucifié. Et Dieu nous a crucifiés en lui. C'était notre place. Mais ce sera littéralement la place dans le jugement de Dieu pour ceux qui ont rejeté cette offre de la grâce de Dieu. Maintenant, on voit comment les Juifs ont trouvé le repos. Versets 15, 16 et 17 nous parlent du fait qu'ils eurent du repos de leurs ennemis. C'était maintenant sur la base de ces jugements que le repos était venu. Ils se reposèrent, ils en firent un jour de festin. C'était donc spontanément le cas. Mais il y a une autre chose maintenant, à la fin du chapitre 9. On voit que ce n'était pas seulement pour une fois. Ils vont maintenant avoir un mémorial de ces choses-là. Dans Lévitique 23, on trouve sept fêtes de l'Éternel. Ce sont les voies de Dieu pour introduire le peuple dans le repos. Mais ici, nous voyons le repos même. Ici, nous voyons, aussi dans le chapitre 10, ce repos même. Et les voies de Dieu aboutissent donc à l'introduction de ce repos. Et pour eux, aussi longtemps que ce n'est pas encore le cas, ils ont donc ce mémorial. Et c'est aussi pour nous le fait. Nous avons un mémorial très spécial, qui ne parle pas des voies de Dieu, mais qui nous parle du Seigneur, et aussi de notre délivrance. On voit deux côtés de ce mémorial. On voit verset 21, afin d'établir pour eux qu'ils célébreraient le 14e jour, et tout ça. Et verset 22, du repos, où leur douleur avait été changée en joie. Vous voyez, c'était la délivrance. Donc, c'est un mémorial pour se réaliser leur délivrance. Mais c'est aussi, j'aimerais suggérer, un mémorial en rapport avec Mardoché lui-même. Parce que Mardoché est le centre de ce mémorial. Comme le Seigneur Jésus est le centre pour nous de la scène. C'est pas pour nous rappeler de notre délivrance seulement, c'est surtout de nous rappeler de lui-même, de sa mort et maintenant de sa personne. Donc ces deux côtés, on trouve dans ce mémorial. Mais c'est donc d'un côté comme initiative d'eux-mêmes. C'était leur désir d'avoir ce mémorial. On le trouve dans le verset 23. Les Juifs acceptèrent de faire ce qu'ils avaient commencé. C'était donc leur désir de le faire. Mais d'un autre côté, c'est l'instruction de Mardoché. Pour nous, la même chose. Nous avons le désir de célébrer la Sainte du Seigneur, comme par la reconnaissance de nos cœurs. Et en même temps, c'est une demande du Seigneur, c'est une requête du Seigneur, même un commandement. C'est vraiment, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est selon ses instructions qu'on aimerait le faire. Mais, malheureusement, ce mémorial est devenu, pour les Juifs, littéralement, un festin avec beaucoup de, disons, beaucoup de mal, malheureusement. Il y a même dans le Talmud, ce sont les écrits des Juifs, des passages qui nous parlent du fait que les Juifs pourraient être ivrognes ces jours-là. Et même, ils pourraient boire d'une telle façon qu'ils ne pourraient plus voir la différence entre « Béni soit Mardoché » ou « Maudit Haman ». Vous voyez, là on voit le déclin. La même chose est arrivée dans l'histoire de l'Église. La scène du Seigneur a été utilisée pour l'homme. Les choses de Dieu ont été utilisées pour l'homme. Et le Seigneur Jésus a perdu sa place. Il n'est plus le centre de ces festins, malheureusement. Et ce sera le cas aussi dans le millénium. Là, on verra un déclin. Même dans cette joie et dans le règne du Seigneur, il y aura ce déclin, malheureusement. On a des indications dans les prophètes et dans d'autres livres pour ça, même dans le livre de Nombre. Maintenant, on arrive à la fin du chapitre 9, verset 30. Il envoya des lettres avec des paroles de paix et de vérité. Merveilleux. Ce sont ici les instructions de Mardoché. Et ce sont des paroles de paix et de vérité. C'est notre privilège, bien-aimé, aussi d'avoir des paroles de paix et de vérité. Des paroles de la part du Seigneur. Comme on a parlé de la Sainte du Seigneur, ce sont des paroles de paix et de vérité. On a beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament qui nous présentent les pensées du Seigneur. Des paroles de paix et de vérité.
Nous voyons maintenant dans le chapitre 10 une image du règne millénaire. Et nous avons vu déjà au chapitre 1er du livre d'Esther que c'est le désir de Dieu d'introduire toute la création dans cette bénédiction spéciale du règne millénaire. Le septième jour, nous voyons que là, c'est donc l'apogée de la première création. Nous savons que nous appartenons déjà à la nouvelle création, mais Dieu va quand même donner cette bénédiction spéciale à l'ancienne création. Le Seigneur Jésus sera reconnu comme le vrai roi. Et c'est important de voir que le royaume de Dieu a été donné à un homme. C'est ici Assuérus qui imposa un tribut. Ça parle donc de l'autorité d'Assuérus. Mais on a vu aussi auparavant et même dans le chapitre 10 qu'il donne la deuxième place à Mardochée. Et ce sera le cas pour le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15 nous parle de cette place que le Seigneur Jésus va avoir pendant le millénium jusqu'à ce qu'il donne redonne l'autorité à Dieu. Et on voit quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent du fait que le royaume de Dieu est aussi le royaume du Fils de l'homme. Dieu a donné le règne à un homme. Et c'était toujours dans le cœur de Dieu de pouvoir donner le règne à un homme. On le voit déjà dans l'histoire de David. C'était le désir de Dieu d'avoir David comme son roi. Et ici, on voit dans l'image de Mardochée aussi le désir de Dieu d'avoir un homme comme son roi bien-aimé, l'homme de son bon plaisir, l'homme de ses délices. Il donne toute autorité à cet homme. C'est le désir de Dieu de donner toute l'autorité au Seigneur Jésus. Il l'a déjà pour la foi, oui. Éphésiens 5 nous parle du fait que c'est le royaume de Dieu et de Christ. Et dans Apocalypse 11, le moment où le Seigneur Jésus va commencer son règne public, la parole nous dit que c'est le règne de Dieu et de son Christ. Donc, c'est Dieu qui est reconnu publiquement et c'est en même temps le règne du Seigneur Jésus. Et quelle beauté, verset 2, tous les actes de sa puissance et de sa force et la déclaration de la grandeur de Mardochée. Nous avons vu la grandeur de Mardochée, c'est ici l'apogée pour ainsi dire. Tout l'univers va reconnaître la grandeur de notre Mardochée, comment le roi l'éleva. C'est touchant de voir que c'est Dieu qui l'a haut élevé. Philippiens 2, aussi dans les prophètes, Ésaïe 52, toutes les nations vont voir comment il est haut élevé. Et ce chapitre termine avec quelques leçons pour nous aussi. Pour nous, c'est important de voir, Éphésiens 1 par exemple, que toutes choses seront mises au pied du Seigneur Jésus, Éphésiens 1, versets 10 et 11. Et c'est le Fils de l'homme au pied duquel tout sera assujetti. Mais pour la foi, c'est déjà une réalité maintenant. Nous reconnaissons le Seigneur Jésus qui a toute autorité déjà maintenant. Mais ce sera reconnu publiquement dans ce jour à venir. Et le verset 3 nous donne encore 5 petits détails qui sont très beaux. Car Mardochée le Juif, il restera le Juif. Donc, c'est clair pour nous que le Seigneur Jésus a une relation avec nous qui surpasse cette relation, c'est clair. C'est ici en relation avec Israël futur, car Mardochée, le Juif, fut le second après le roi Assuérus. Le deuxième détail, c'est qu'il fut grand, on l'a vu déjà, mais il fut grand parmi les Juifs.